vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 1. Je vais juste commencer une série de messages en Romains. Alors, la première fois, on vient, ça fait 2 semaines. Les versets 1 à 7, et on avait surtout arrêté notre regard sur le verset 7 où Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, et il leur dit à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et on avait dit que le mot bien-aimé qui était là, c'était un mot très fort pour vous décrire, vous les enfants de Dieu, puisque le mot « bien-aimé », c'est le même mot que Dieu utilise lorsque l'Esprit descend sous la forme d'une colombe et que Dieu dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est le même mot grec que Paul utilise ici pour décrire un enfant de Dieu, si vous êtes des bien-aimés de Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est que pour aux yeux de Dieu, eh bien, si Jésus est son bien-aimé, vous êtes aussi ses bien-aimés. Si Jésus est son héritier, vous êtes aussi co-héritier avec Christ. Et si Christ est appelé à régner sur le royaume de Dieu dans le futur, vous êtes aussi appelé à régner avec lui sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux que Dieu va créer un jour. Et dans les 7 premiers versets de ce chapitre, Paul se présente lui-même aux chrétiens de Rome. Il leur parle de lui, il leur parle du message, il leur parle du messager. J'ai pas vraiment eu le temps de parler du messager, mais les versets 3 à 5 sont très importants parce que c'est il y a une doctrine ici fondamentale du christianisme dans les versets 3 à 5, je les mettrai sur Internet, parce que il y a plus qu'un message, mais on dit, il concerne son fils Jésus-Christ, dans l'Évangile, concerne son fils Jésus-Christ. Alors, ça concerne pas une religion, ça concerne une personne, ça concerne la personne de Jésus-Christ, et il dit, né de la postérité de David selon la chair, donc c'est important ici d'expliquer que Christ est venu au monde, et bien, il a été conçu par le Saint-Esprit, dans le ventre d'une vierge, c'est important aussi parce que ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament, mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Christ est le premier d'entre les morts à être revenu à la vie, étant nous préparant cette place aussi qu'un jour, pas nous préparant à cette place, mais confirmant aussi un jour qui nous ramènerait aussi de la mort à la vie. Et vous avez sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors, on en a parlé souvent, on en parle souvent le mercredi soir, de la sanctification, mais vous avez remarqué ici, Paul est dit par lui, hein, par cet évangile, on a reçu la grâce et l'apostolat, ou par Jésus-Christ, hein, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, justification, sanctification. On croit au Seigneur Jésus. Et comment on fait pour démontrer qu'on a vraiment cru en lui? Eh bien, c'est par notre vie, l'obéissance au quotidien. Et ici, Paul, eh bien, partage avec ces gens qu'il n'avait encore jamais rencontrés les raisons pour lesquelles il leur écrit cette lettre. Mais avant toute chose, il leur dit qu'il est très reconnaissant au Seigneur pour eux tous. Verset 8. Alors, aujourd'hui, on va regarder le verset 8 et le verset 9. Mais bon, pour nous mettre dans le bain, on va lire les versets 8 à 15. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de vous recueillir, quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, le premier mot que j'aimerais m'arrêter, c'est au verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. » Ce qui est extraordinaire, hein, c'est pas Paul qui a implanté cette église, c'est quelqu'un d'autre. On aurait pu penser que plusieurs, auraient pu être jaloux des bénédictions que les chrétiens de Rome vivaient. Imaginez, peu importe où l'apôtre Paul se trouvait, on parlait de ces chrétiens dans le monde entier. Hein. C'est ce qui est le texte, hein. C'est ce que Paul dit, quoi. Hein. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, c'était pas juste à Rome. Mais peu importe où Paul se trouvait, dans l'Empire de Rome, peu importe où il se trouvait, il entendait parler de la foi des Romains, des chrétiens romains. C'est extraordinaire, ça, non? Et quoi qu'il ne les avait jamais encore vus face à face, ces chrétiens étaient des personnes très chères à ses yeux. Et c'est important parce que quand on comprend que l'Église, c'est une famille, quand on comprend que peu importe où se trouvent les chrétiens, ils font partie de la famille, ils font partie de notre famille puisqu'on fait partie de leur famille, ben même si on ne les a jamais vus, ce sont des gens qui devraient être très chers à nos yeux. Vous êtes en même à ça? Oui, ça c'est très très important. Restez les individualistes du monde qui essaient de rentrer dans l'Église. On ne doit pas nous faire oublier que l'Église, ce n'est pas des individus un par un, c'est un groupe d'individus, l'Église, c'est une famille. Cette famille, c'est la famille de Dieu, et c'est avec cette famille-là que Dieu a décidé de passer l'éternité avec. Moi, je suis convaincu qu'en lisant le passage ici, que les chrétiens de Rome n'avaient pas sûrement atteint tous le même niveau spirituel, et pourtant, Paul va rendre grâce à Dieu pour eux tous. Et ils savaient qu'il n'était pas nécessaire de leur faire toutes sortes de recommandations. Dans Romains chapitre 15, verset 14, il dit, « Car ils étaient remplis de bonté, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capables de se donner entre eux les conseils les uns et les autres. » Alors, c'était des gens, écoutez, dépendant de la maturité qu'ils avaient, c'était des gens où Paul n'avait pas nécessairement besoin de leur donner de grandes recommandations, c'est-à-dire de les ramener à l'ordre, parce que c'était des gens, finalement, qui étaient remplis de bonté, est pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître, hein, est capable de se donner des conseils les uns les autres. Et chacun de nous, ce matin, on peut apprendre de l'attitude de Paul ici parce que Dieu veut que ses enfants lui rendent grâce en toutes choses. Moi, j'aimerais ce matin, c'est facile, ce chemin-là, hein, c'est épuisant de se tourner, moi, je suis resté dans ma cage ici. C'est vrai que c'est large. Hein, si je vous demandais un par un ce matin, on se ferme les yeux, puis je vous demanderais ce matin de vous lever un par un, de rendre grâce au Seigneur pour une chose. Pourtant, l'apôtre Paul ici nous dit, rendez grâce en toutes choses, en toutes choses. Un des pièges qu'on risque de tomber trop souvent quand on avance dans la vie chrétienne, c'est de tomber dans une routine spirituelle où on dit au Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, merci pour tout. Mais si le Seigneur nous arrêtait de dire un peu, j'aimerais juste simplement que tu m'énumères deux, trois choses pour lesquelles tu me rends grâce. On serait peut-être pris au piège par le Seigneur parce que je ne suis pas convaincu qu'on serait capable de se dire pourquoi on lui rend grâce. C'est comme quand on dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Si le Seigneur nous arrêtait de dire, c'est quoi tes péchés pour lesquels tu me demandes pardon? Des fois, on serait peut-être pris. On serait peut-être surpris de dire, ben Seigneur, je t'ai demandé pardon parce que je dois te demander pardon, mais honnêtement, faire la liste des péchés, je serais coincé, quoi. Et le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, il nous dit, je rends grâce, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses à votre Dieu, qui est aussi mon Dieu. Verset B. Lui rend grâce pour une chose au Seigneur. Regardez, de ce que votre foi soit renommée dans le monde entier. Rendons grâce à Dieu que votre foi soit renommée dans le monde entier. En réalité, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Je rends grâce à Dieu parce que vous partagez votre foi publiquement autour de vous avant vous. En d'autres mots, je rends grâce à Dieu parce que vous vous inquiétez de la destinée des âmes des Romains. Ouais. Les âmes de ces païens romains. Frère et sœur, sur le témoignage reconnu dans le monde entier, si ces gens-là, les Romains de Rome, sont en train de bouleverser l'Empire romain, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce qu'ils se promènent dans la rue, ils font une procession de quoi sans dire genoux, non? Parce qu'ils rendent témoignage de l'espérance que Christ a déposée dans leur cœur. Et cette renommée, eh bien, elle parcourt, elle est en train de parcourir et de tout l'Empire romain. Et Paul, il dit, peu importe où je me déplace, il dit, j'entends parler de vous, et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça, parce que même si je suis emprisonné à cause de l'Évangile, votre renommée, parce que vous partagez votre foi à travers l'Empire romain, eh bien, votre foi, peu importe où je le trouve, eh bien, votre foi, eh bien, je l'entends, elle parvient à mes oreilles. Faites son silence, frère et sœur. C'est pas un sujet de rendre grâce à Dieu, ça? Hein? Seigneur, je te rends grâce parce qu'il y a des frères et des sœurs qui témoignent du nom de Jésus-Christ. Ben, c'est ça, d'un coup. Ça, on peut rendre grâce pour ça. Tu vois, c'est pas vrai. Oui, Vous avez peut-être certains ce matin. Vous êtes amen à ça? Oui. Et je pense que c'est vraiment une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu. Examinez le tour, le monde autour de vous et voyez jusqu'à quel point les gens sont indifférents pour tout ce qui concerne leur destinée éternelle. Ils ne sont même pas intéressants d'en parler des choses de Dieu. Et la grande majorité ne veut pas connaître ses voies parce qu'ils se sont attachés aux choses de la terre. Vous les juger? Non. Pensez seulement à la conduite que vous aviez autrefois, et ce jusqu'au moment où Dieu va permettre que quelqu'un vous partage sa foi et que vos yeux s'ouvrent pour vous amener à la repentance et à la conversion. Rappelez-vous jusqu'à quel point à ce moment-là, vous ne vous préoccupez pas des choses de Dieu ni de la santé spirituelle de votre âme. Vous ne vous souciez alors que de vos affaires personnelles et non des affaires de Christ. Au lieu de vivre pour celui qui est mort pour vous, vous ne vous vivez que pour vous-même et que vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Mais un jour, frère et sœur, vous avez entendu l'Évangile. Vous avez entendu l'Évangile. Et la foi vient de ce qu'on entend vient. Vous n'avez pas entendu une vaine philosophie, vous avez entendu l'Évangile. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de ce que cet homme a fait pour vous. Vous avez entendu parler de l'amour qu'il a eu pour vous. Vous en avez été estomaqué. Parce qu'on vous a raconté à travers l'Évangile que si Jésus-Christ était pas venu dans le monde pour sauver le monde, vous étiez perdu pour l'éternité. Et là, encore une fois, vous avez raison de grande grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce que toi, depuis toute l'éternité, j'étais dans ton cœur, Seigneur, tu m'as pas oublié et tu avais prévu un plan depuis toujours pour me sauver, Seigneur. Ça, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. La croix de Jésus, toujours l'occasion, jour après jour, de rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ta croix. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est quoi ta grâce, finalement? C'est que moi, j'ai reçu ce que je n'étais pas coupable. Là, innocent, il a tout subi, moi, ce que j'aurais dû subir. C'est ça, la croix. Il n'était pas obligé de le faire. Mais, Seigneur, je te rends grâce, Jésus. Je te rends grâce de t'être rendu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Malgré les moqueries. Malgré la souffrance. Malgré les blessures qu'on t'a infligées. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, de ne pas m'avoir abandonné. De ne pas avoir abandonné ce chemin qui me conduisait à la croix. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une espérance vivante. Celle de passer l'éternité avec toi. Tu t'emmènes à ça? Ouais. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me fais. Parce que, Seigneur, je méritais d'être puni. Il faut être décidé de me gracier. Merci, Seigneur. Vous avez entendu l'Évangile un jour, vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez cru en lui, et il vous a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est alors qu'une nouvelle vie a commencé en vous. Vous avez reçu un nouveau cœur au moyen duquel vous avez été amené à détester votre ancienne façon de vivre, et à désirer maintenant vivre comme Dieu demande de vivre. Ça, c'est la nouvelle naissance. Dieu vous donne un nouveau cœur, à ce moment-là, une opération extraordinaire qui se passe, le miracle de la nouvelle naissance. Dieu aussi change vos yeux. Il vous donne une nouvelle paire de yeux, il vous donne une nouvelle paire de mains, il vous donne une nouvelle paire de jambes. Vos mains maintenant, elles sont là non pas pour vous servir des gens, pour tirer profit des gens, elles sont là pour que vous serviez les gens, pour les aider à grandir dans leur foi, et même pour certains les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Vos yeux, vous voyez les gens maintenant avec un regard de compassion. Vous avez pitié des gens parce que vous avez compris à quel point Dieu a eu pitié de vous. Et ça, encore une fois, c'est l'occasion ce matin de rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as eu pitié de moi, Seigneur. Et je ne méritais même pas. Parce que je vivais sans toi, Seigneur. Je vivais, je baignais dans le péché. Comme le cochon qu'on vient de laver qui retourne se rôter dans sa soupe. Seigneur, j'étais comme ça, un pécheur sans âme. Et je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce d'avoir eu pitié de moi, Seigneur. Amen, hein? Heureusement, frères et sœurs, dans le point de vue des rancuniers. Heureusement qu'il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Et des fois, on en a un, on rentre à l'église, il dit, hop, il ne nous a pas regardé, on pense qu'il nous en veut, hop. On appelle le pasteur, il dit, écoute, j'ai appelé mon frère, ma sœur, je suis rentré à l'église, il ne m'a pas appelé ce matin. Oh, ça va pas, c'est pas une bonne semaine. J'y vois chaque fois qu'on détourne notre regard de Dieu, si ça nous a commencé à nous appeler. Ça foudroyé, non? Foudroyé. Ah, Seigneur, merci, je te rends grâce parce que tu n'es pas un Dieu rancunier. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu n'as pas de mal dans ton cœur. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que malgré mes manquements, même si j'attriste ton cœur, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Merci, Seigneur, parce que pour toi, tes yeux, je ne suis pas un minable, je ne suis pas un moins que rien. Tu évalues ma valeur, tu évalues le prix que je vaux. La valeur que ça a pris à mon fils sur la croix. Mais savoir ce que vous valez en argent, vous êtes incapable d'évaluer ce que vous valez en argent. Vous ne pouvez évaluer votre valeur aux yeux de Dieu qu'en fonction de l'œuvre qui est accomplie à la croix. Et ça, c'est inestimable. C'est inestimable. Et ça, on doit rendre grâce à Dieu pour ça aussi. Rendez grâce en toutes choses, dit Paul. Je rends grâce à Dieu que vous partagez le message de sa grâce qui parle de Christ. Ce message qui change les vies. Et je l'ai béni pour tout ce qu'il fait pour vous et à travers vous, dit l'apôtre Paul. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et comment pouvons-nous développer un esprit de reconnaissance envers le Seigneur? Eh bien, je pense que lorsque Christ est au centre de tout ce que vous faites, si vous trouvez votre satisfaction uniquement en lui, alors vous serez toujours comblé. Si d'un autre côté, il vous faut des bénédictions matérielles et physiques pour rendre grâce à Dieu, alors je peux vous promettre une chose, vous allez finir par être déprimé et découragé. Vous devez trouver votre satisfaction uniquement en Jésus-Christ. Paul dira aux chrétiens de Philippe, Philippiens chapitre 4, verset 10 à 13. Tournez avec moi pour ceux qui ont leur Bible. Philippiens chapitre 4, verset 10 à 13. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Et ça, c'est le piège qui guette le monde et c'est le piège qui guette les chrétiens. Non seulement on vit dans une société qui n'a pas été éduquée à se contenter de ce qu'elle a, mais elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a, elle en veut toujours plus. D'où ce crédit épouvantable qui existe dans la société aujourd'hui. Paul dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Pourquoi? Écoutez, ça prend quelqu'un qui a une confiance extraordinaire en Dieu pour dire « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Elle sous-entend quoi ça? Peu importe ce que j'ai, Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui connaît mes besoins, c'est exactement ce dont j'ai besoin, donc j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Et regardez ce qu'il dit. « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. » Vous savez ce que c'est un pauvre? C'est un riche qui n'a plus d'argent. Et vous savez ce que c'est un riche? C'est un pauvre qui a de l'argent. Qu'est-ce que c'est un pauvre et un riche aujourd'hui? Hein? Ce sera difficile à définir, quoi. On évalue ça en combien de millions de dollars? On évalue ça en combien de propriétés? Ce qui est un riche, qui fait la différence entre un riche et un pauvre. Un pauvre, c'est un riche qui a de l'argent, puis un riche, c'est un pauvre qui n'a pas d'argent, qui a pas plus d'argent. C'est un riche et un pauvre. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Maintenant, si on regarde ça à partir de nos propres yeux, on se dit dans la pauvreté, mais c'est quoi lui dans la pauvreté? Et qu'est-ce que c'est Paul quand il vit dans l'abondance? Parce que là, on recule 2000 ans en arrière, et là, on a cette difficulté d'entrer dans le contexte, quoi. Mais Paul, ce qu'il dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Qu'on pense que je suis pauvre, qu'on pense que je suis riche, moi, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, parce que c'est Dieu, ça vient de Dieu ce que j'ai. Et il dit, j'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger, ou que j'ai faim, que j'ai trop, ou que je n'ai pas assez. Et là aussi, encore une fois, pour définir ce que c'est, j'ai-tu trop mangé, j'ai pas assez mangé, j'en ai-tu assez, j'en ai pas assez, quoi. Aujourd'hui, il y en a trois assiettes, c'est comme si c'était pas suffisant, quoi. Il y en a une petite portion, ben c'est comme si c'était trop. Oh non, elle a... Moi, je dis parce que des fois, tu sers une petite portion à quelqu'un, puis oh, laisse-en encore. Et des fois, tu sers une grosse portion à quelqu'un, mets-en encore. Alors, c'est difficile quand tu regardes ça. J'ai appris satisfait partout dans les circonstances que j'ai assez à manger, que j'ai faim, que j'ai trop, que je n'ai pas assez. Et regardez ce qu'il dit, par contre. Je peux tout, je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Ça t'amène à ça? Ouais. Ça, c'est le seul qui vous abandonne pas. Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, ne vous laissez pas dominer dans votre conduite par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Et il continue, il dit, c'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai peur de rien. Vous savez, frères et sœurs, la peur, c'est la première arme que le malin utilise pour paralyser un chrétien. S'il réussit à vous faire peur, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Et quand vous lisez le livre de Néhémie, hein, la peur, elle est du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. La peur, c'est l'arme idéale que le diable va utiliser pour paralyser un chrétien. Il sait que Néhémie, c'est un leader appelé par Dieu à reconstruire la muraille de Jérusalem. Et la première chose qu'il va faire, il va y envoyer des gens qui vont lui faire des menaces pour lui faire peur pour qu'il abandonne notre projet de construire le mur de Jérusalem. Il va avoir des espions parmi le peuple qui vont aller rapporter aux ennemis de Dieu. Hey, Néhémie est rendu là, il est en train de faire ça, il fait ça la nuit, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour le décourager, pour lui faire peur. Et Paul ici nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je t'amène à ça. Je puis tout par celui qui vous fortifie. Verset 9. Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Je pense, en d'autres mots, je pense sans cesse à vous toutes les fois que je prie. Et le mot servir ici, parce que c'est bizarre de dire, hein, je sers Dieu en mon esprit. D'habitude, on sert Dieu avec nos mains, quoi, hein. Et Paul dit ici, je sers Dieu en mon esprit. Et ça m'a frappé, ça, je suis allé voir dans le grec. Et le mot servir ici est utilisé par Paul ici, est utilisé dans un sens religieux, et il rappelle le service que les prêtres faisaient lorsqu'ils offraient des sacrifices, pardon, dans le temple. Et moi, je trouve que c'est une très belle image que Paul utilise ici dans sa prière. C'est celle d'un prêtre qui offre des sacrifices ou de l'encens à Dieu dans le temple, présentant les gens devant lui. Je vais simplement ramener directement dans le contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les épaules du vêtement du prêtre, il y avait deux bières de cornaline, sur lesquels on avait gravé les noms des fils d'Israël. Hein, dans Exode chapitre 28, tu prends des notes, et là c'est 9 à 12. Et sur la première pierre, il y avait 6 noms, et sur la deuxième pierre, il y avait les 6 autres noms des fils de Jacob, d'après l'ordre de leur naissance. Et les noms étaient donc gravés sur les deux pierres, comme on grave un cachet personnel, et qu'on les fixe ensuite, dans deux montures en or. Et on plaçait ensuite les deux pierres en souvenir des fils d'Israël, sur les épaulettes de l'époque, c'est-à-dire une pièce d'ornement qui était attachée, finalement, sur la poitrine du grand prêtre, du prêtre. Et c'est comme un souvenir que le prêtre portait les noms devant l'Éternel sur ses deux épaules. Porter ses pierres sur les épaules, ça je trouve ça intéressant, c'est tout l'Ancien Testament, pourquoi le mettre de côté, hein? Porter ses pierres sur les épaules signifiait pour le prêtre porter le poids du peuple, ou porter les fardeaux du peuple devant le Seigneur. C'est extraordinaire comme image. Et c'est ce que Paul veut dire lorsqu'il nous demande de porter les fardeaux les uns les autres. Il ajoute que si nous faisons cela, Galates chapitre 6, 2, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Si nous portons les fardeaux les uns les autres, nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Moi, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Parce que Jésus nous a donné deux commandements, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et Paul nous dit que eh bien, si on porte les fardeaux les uns les autres, est-ce qu'il est en train de rajouter un autre commandement, quoi? Ou s'il est en train d'agrandir le commandement les uns les autres, il dit, si vous portez les fardeaux les uns les autres, dans Galates 6.2, nous accomplirons ici la loi de Christ. Lorsque le grand prêtre entrait dans le sanctuaire, il portait sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, de cette manière l'Éternel ne les oubliait pas. Alors, ça, maintenant, l'application pour aujourd'hui, ça va être moins abstrait. La prière ne démontre pas seulement que nous avons un fardeau pour nos semblables, mais lorsque nous prions les uns pour les autres, lorsque nous prions pour ceux qui sont perdus, lorsque nous prions pour les frères et sœurs, nous démontrons que nous les aimons et que nous les portons dans notre cœur. Et bien, on accomplit la loi de Christ, qui est le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Après ça, porter les fardeaux les uns pour les autres, ça correspond au deuxième commandement qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Si tu aimes ton prochain comme toi-même, quand ton frère pleure, tu vas pleurer avec lui. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, quand ton frère se réjouit, tu vas te réjouir avec lui. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, quand ton frère est dans le besoin, tu vas lui venir en aide. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est porter les fardeaux les uns les autres, peu importe ce que ton frère dit. En principe, c'est rattaché à toi. Tu dois ressentir ce que ton frère, que ta frère, ta soeur vit. Et pour être en mesure de porter les fardeaux les uns les autres, parce qu'on est une famille, on doit être en mesure de se fréquenter régulièrement. Pour qu'on puisse se partager nos besoins, qu'on puisse se partager notre quotidien, sans rentrer dans des petits détails, on n'a pas besoin de connaître, mais pour que nos frères et soeurs soient capables de porter nos fardeaux les uns les autres. Et quand on sait qu'il y a des gens qui portent les fardeaux les uns les autres, qui portent nos fardeaux, eh bien, on sait que ces gens-là prient. Ça, c'est important. prière, elle est le fondement de tout vrai ministère, parce que c'est par la prière que le chrétien peut influencer Dieu à agir. Je ne sais pas si, si je l'ai dit dans une autre église, si vous ne priez pas, ah oui, je l'ai dit dans l'autre église, dans une autre église. Si vous ne priez pas, si vous n'avez pas une vie de prière, vous ne recevez rien de Dieu. Et je m'en défie. Je m'en défie quiconque ne prie pas, de venir me dire qu'il reçoit de Dieu. La seule façon que Dieu répond à vos besoins, c'est à travers la prière que ses enfants lui adressent devant le trône de la grâce de Dieu. La prière est le seul moyen qui va amener Dieu à agir dans votre vie. Il n'y en a pas d'autre. La parole est le seul moyen que Dieu utilise pour agir dans le cœur de ceux qui ne croient pas, dans le cœur de ceux qui ne croient pas, pour les faire grandir. Mais pour son enfant, s'il veut voir Dieu manifester sa puissance dans sa vie, c'est à travers la prière. Amener devant le Seigneur ceux que vous servez, c'est rappeler au Seigneur que vous les aimez, que vous voulez qu'ils se souviennent d'eux. C'est ce que nous faisons le jeudi soir lors des réunions de prière, alors que nous amenons devant le Seigneur les gens qui apparaissent sur la liste de prière parce que nous les aimons et parce que nous voulons que Dieu se rappelle des raisons pour lesquelles nous lui avons présenté tous ces gens. La conversion de Hudson Taylor, comme toutes les autres choses dans sa vie, est un monument dressé en l'honneur de la puissance de la prière. Alors qu'il avait plus ou moins 17 ans, Hudson Taylor se rendit un après-midi à la bibliothèque de son père à la recherche d'un livre avec lequel il pourrait passer le temps. Finalement, il prit un tract évangélique qui lui semblait intéressant en se disant lui-même, il y aurait une histoire au début et un sermon à la fin. Alors je lirai l'histoire, mais je sauterai le sermon. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au même moment dans le cœur de sa mère, qui était sorti faire une visite à 100 ou 120 km de là. Ce même après-midi, elle alla dans sa chambre soupirant intensément pour la conversion de son fils. Elle ferma la porte à clé et décida qu'elle ne quitterait pas sa chambre jusqu'à ce que ses prières soient exaucées. Heure après heure, elle continua à supplier Dieu jusqu'à ce qu'il ait dans son cœur l'assurance que l'objet de ses prières avait déjà été accompli. Pendant ce temps, en lisant le tract évangélique qu'il tenait dans ses mains, les yeux d'Hudson Taylor se sont arrêtés sur l'expression « l'œuvre achevée de Christ ». En pensant ces mots « tout est achevé », il se demandait ce qui avait été achevé. Il répondit immédiatement « Jésus s'est offert un sacrifice pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les autres, mais aussi ceux de tous les hommes. Il a satisfait pleinement et parfaitement ce que la loi exigeait. Christ a pris ma place, il a payé la dette de mon péché. » Vint ensuite la pensée suivante dans son cœur. Si l'œuvre a été entièrement achevée et la dette entièrement payée, qu'est-ce qu'il me reste à faire, se dit-il. Il réalisa alors qu'il n'avait rien d'autre au monde à faire sinon plier les genoux dans la prière et accepter par la foi le salut acquis par Christ pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, dit Hudson Taylor, tandis que ma chère mère louait Dieu à genoux dans sa chambre, je louais le Seigneur dans le vieil entrepôt où j'étais parti seul, lire pour passer le temps, et pour lire ce petit livre, afin d'y passer le temps. Prière. Verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. C'est le désir de Paul. On verra ça la semaine prochaine. Dieu va répondre à son désir, pas de la manière qu'il voulait. Il va y aller, il part des années. Mais il va quand même se rendre à Rome. C'est vrai que c'est la fête des pères aujourd'hui. C'est vrai que quelques semaines, c'était la fête des mères. C'est ça. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas prié pour le salut de nos enfants? Ça fait combien de temps qu'on a pleuré? Pleuré pour que Dieu intervienne dans la vie de nos enfants et qu'il les sauve. En train de lire un livre extraordinaire de Swan Smith, le réveil qu'il nous faut. Et il nous dit, je parle avec des chrétiens, ça fait des années, qui ont proversé de l'âme pour le monde qui se perd et qui s'en va en enfer. Parce que l'Église a perdu vue que l'enfer existait. Enfin, c'est ça, ça remonte à combien de temps? La dernière fois, j'avais pleuré. Parce que votre enfant n'est pas sauvé, qu'il est sur le chemin de l'enfer. Ça remonte à combien de semaines, combien de jours? Combien de mois, combien d'années. La mère d'Hudson Taylor, elle tombe en plein ciel de ses prières. Et elle a dit comme Jacob, je te lâcherai pas tant que sinon tu ne les oseras pas. Les soeurs sont mortes à combien de temps? Vous n'avez pas versé une larme pour le salut de votre fils, pour le salut de votre fille. Parce que vous avez oublié que s'il se faisait frapper, que si Dieu l'a rappelé à lui aujourd'hui, c'est l'enfer qui est là-dedans. Paul le savait très bien. Il rendait grâce à Dieu du témoignage de foi que les chrétiens de Rome portaient dans le monde entier. Ce témoignage de foi, c'est qu'ils allaient dire aux gens qu'ils étaient perdus en dehors de Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'autre moyen d'être sauvé qu'en dehors de Jésus-Christ. Et les chrétiens de Rome, ils versaient les larmes. Les chrétiens de Rome, ils priaient, ils jeûnaient. Pas juste pour leurs enfants, mais pour ce monde qui est perdu parce qu'il vit sans Dieu. Frères et sœurs, on a des listes de prières extraordinaires le jeudi soir. On a une liste d'enfants de chrétiens qui ne sont pas sauvés. Mais est-ce que vous priez pour vous et la salut de vos enfants? Parce que si vous ne priez pas pour leur salut, je peux vous ajouter de garde sans équipe. Si vous ne priez pas pour le salut de vos enfants, tout le temps vous pouvez leur pied de l'église. C'est une puissance diabolique dans le monde qui cherche à voler, à soutirer l'âme de votre enfant pour l'éternité. Paul se réjouissait de rendre grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, puisque votre foi soit renommée dans le monde entier. Il y en a plusieurs parmi vous qui m'avaient raconté des histoires sur vos grands-parents, sur vos parents, qui ont prié régulièrement pour vous et qui ont eu la joie de voir donner votre cœur au Seigneur. Je pense à la famille d'Idiadza. Ils sont là ce matin, oui. Quand j'ai vu, ta mère s'est priée pendant des années pour le salut de votre famille. Et Dieu lui a donné la joie avant de mourir de pouvoir tous venir au Seigneur Jésus-Christ. Parlo aussi ici. Parlo. Parlo, son père a prié pendant des années. Et puis il revient au Seigneur pour qu'il se donne au Seigneur. Son père a persisté à son baptême. Et quelques mois après, son père apprenait qu'il avait un cancer et il est décédé. La récompense dans votre prière toute une vie, le Seigneur a permis. A fait la grâce, une grand-mère et un père, d'avoir ses enfants, ses petits-enfants vers le Seigneur. Puissions-nous voir la prochaine génération de parents et de grands-parents prier fidèlement pour son enfant, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est vrai que le principal ministère de Paul, c'était d'évangéliser. Mais son deuxième ministère, il savait très bien que c'était rattaché l'un à l'autre, c'était la prière. Embarquer dans un ministère sans la prière, c'est vraiment se casser les deux jambes. C'est vraiment de courir en affaire. Et je le répète, c'est dans la prière qu'on donne autorité à Dieu d'agir. Paul était un homme de prière, ses prières n'étaient pas centrées sur lui, mais plutôt centrées sur les autres. Et quelle leçon pour l'Église? Combien souvent nos prières sont égoïstes en elles-mêmes? Seigneur, aide-moi, Seigneur, bénis-moi, ainsi ma famille, Seigneur, réponds à mes besoins. Ce genre de prière et d'autres de ce genre sont des modèles de prière qui déroulent jusqu'à tel point que nous pensons qu'à nous. Cependant, je crois que le Seigneur désire que nous nous engagions dans un ministère de prière d'intercession. Et intercéder, c'est pas intercéder pour moi, c'est intercéder pour les autres. Le frère, le Saint-Esprit, s'il intercède pas, le Saint-Esprit intercède pas pour lui, il intercède pour les autres. Le ministère d'intercession, c'est pour les autres. Je pense que c'est ce que Dieu veut pour ses enfants, qu'il manifeste un fardeau pour les autres dans les sujets de prière qu'il lui adresse. Frères et sœurs, comment décrivez-vous votre vie de prière ce matin? Quel est le principal sujet qui se dégage de votre vie de prière quand vous priez? Est-ce que vous priez uniquement pour vous? Ou est-ce que vous réussissez à inclure les autres? Je pense que c'est un domaine où on peut tous s'améliorer. Et je termine avec une illustration. Il y a quelques années, un prédicateur accepta d'aller servir Dieu à Houston, Texas. Un jour, peu après son arrivée, il prit le bus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé dans le bus, il réalisa que le chauffeur lui avait accidentellement rendu 40 centimes de trop. Il se dit en lui-même, bon, il ferait mieux de rendre ses 40 centimes. Ce serait mal agi de les garder. Puis il se dit à nouveau, oh, oublie ça, c'est qu'à 40 centimes après tout. Qui se soucierait pour si peu? De toute façon, la compagnie de bus se fait chaque année des bénéfices mondes. Ces 40 centimes ne vont sûrement pas leur manquer. Accepter comme un don de Dieu, et tais-toi. Arrivé à destination, au moment de sortir du bus, il hésita puis tendit les 40 centimes au chauffeur en disant « Vous m'avez rendu trop de monnaie quand je suis rentré. » Le chauffeur lui sourit puis répondit « Êtes-vous le nouveau pasteur en ville? » « Oui. » « Eh bien, depuis un bon moment, j'avais pensé fréquenter l'église. Je voulais juste voir comment vous alliez réagir si je vous rendais trop de monnaie. Je serai dimanche prochain dans votre église. » En sortant du bus, le prédicateur dut se cramponner au premier réverbère pour ne pas tomber et dit « Oh mon Dieu, j'étais à deux doigts de vendre ton fils pour 40 centimes. » Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mon père spirituel, j'avais déjà reçu un billet de 10 euros de trop. Une grande surface. Il va avoir les meubles et tout ça. Il est arrivé chez lui, il sort sa facture, regarde le restant, il commence à compter son change, et il a reçu les 10 euros de trop. Ah, il dit pas à moi ça, ça ne m'appartient pas, il dit je retourne. Il part avec sa facture, il s'en va au comptoir, de remboursement, de remboursement. Pour le client, pas le client qui rembourse. Il se présente avec son billet de 10 et avec sa facture. Il dit, écoutez, elle a dit pour un remboursement. Oh, ben, si on s'est trompé, on vous doit combien? Mais non, il dit, c'est moi qui vous donne l'argent. Il dit, comment ça, vous êtes le premier qui vient venir me voir, vous dire qu'on vous a trop donné? Ben, il dit, je ne sais pas si je suis le premier. Il dit, vous m'avez donné 10 euros de trop. Là, elle regardait tous les boutons pour savoir comment vous pouvez récupérer de l'argent qui avait été donné de trop à un client. Et elle lui dit, écoutez, monsieur, si vous insistez à me donner votre billet, moi, vous allez complètement perturber ma comptabilité parce qu'il va falloir que je motive pourquoi j'ai un billet de 10 de trop dans ma caisse. Quoi. Elle lui dit, écoutez, ça ne vous intéresserait pas de garder le billet, quoi. Elle dit, non, écoutez, c'est pas à moi. Et il dit, vous ne pouvez pas me le donner, je vais l'envoyer, je ne suis pas le patron. C'est peut-être le patron, le propriétaire qui me le donne, pas vous. Vous êtes un employé, l'argent que vous me donnez, il ne m'appartient pas. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, ça dure assez longtemps, mais tout ça pour vous dire que le monde est tellement voleur que si vous avez de l'argent trop, il n'est même pas prévu qu'on puisse l'accepter si vous retournez pour aller le remettre, pour aller le remettre à qui de droit dans un magasin. C'est fort. Hein? Parce qu'en réalité, si un employé veut vraiment éviter que sa caisse, elle ne balance pas, ben, il va dire, OK, merci, il va le mettre dans sa poche, comme il est connu. C'est la seule façon de ne pas avoir de problème. Parce qu'il n'y a pas de fait qui est fait pour dire, bon, ben, un client m'a remboursé 10 euros, c'est plutôt moi j'ai remboursé mon client de 10 euros. Frères et sœurs, Paul rendait grâce à Dieu pour le témoignage des chrétiens à Rome. Nos vies sont la seule Bible qu'un bon nombre d'hommes et de femmes iront durant leur temps sur la terre. Cette histoire est le terrible exemple, hein? Celui du pasteur, avec ses 40 centimes, cette histoire est le terrible exemple de comment notre entourage nous regarde en tant que chrétien et combien nous testerons comme tels. Restez toujours sur vos gardes et souvenez-vous que vous portez le nom de Jésus sur vos épaules lorsque vous affirmez être chrétien. Alors, surveillez vos pensées, car elles se changeront bientôt en paroles. Surveillez vos paroles, car elles se changeront bientôt en actions. Surveillez vos actions, car elles deviendront bientôt des habitudes. Surveillez vos habitudes, car elles mettront en lumière votre caractère. Surveillez votre caractère, car elles influenceront sûrement votre destinée éternelle. Le chemin que Dieu a préparé pour vous, il conduira toujours où sa grâce vous protégera. Alors restez fidèles et soyez reconnaissants. Nous sommes observés par notre entourage, et c'est à cause de notre témoignage et de notre conduite que l'on fera la différence. Et je crois que chaque chrétien, chaque église devrait avoir le même témoignage que celui que manifestaient les chrétiens d'or. Vous êtes en même temps, ça? Ouais. Ça me donne une bonne vie, je crois. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu t'en vas en France, tu t'en vas en Italie, et qu'on te dise, écoute, je rends grâce pour les chrétiens de demain, pour le témoignage de foi qui propage là où Dieu les a placés. Quel impact, hein? Vous pensez que c'est impossible?
Non.
Oh, aïe. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse en arriver à dire, écoute, les chrétiens de demain, je rends grâce à Dieu, comme Paul, je rends grâce à Dieu en Jésus-Christ, parce que leur foi est renommée dans le monde entier. Est-ce que ces missions sont possibles pour Dieu?
Non.
Et je vous ai donné la réponse tout au long du message. Ça dépend la place que le Christ occupe dans votre vie. Chrétien de Rome, Christ occupait la première place. La première place. Et le convoi spirituel, frères et sœurs, il est là. Le convoi spirituel, la victoire du malaise, c'est réussi à faire en sorte que Christ tombe juste à la deuxième place dans votre vie. Ah ben, vous êtes foutu, quoi. Votre joie va diminuer. Il n'y a plus de la deuxième, votre joie va diminuer. La troisième, votre joie va diminuer. Votre paix va diminuer. Votre espérance aussi. Et tôt ou tard, vous allez finir par le vivre comme le monde vit. Vous allez finir par être attiré parce que le ciel attire le monde. Et vous allez finir par pouvoir vivre comme le monde vit. Alors, frères et sœurs, Dieu a payé un grand prix pour se racheter un peuple. Et vous faites partie de ce peuple. Ne laissez pas le diable aller chercher la victoire dans vos vies. En faisant en sorte que ce n'est pas important que Christ occupe la place qu'il doit occuper dans vos vies. Mais les problèmes, vous voulez prier, tournez avec moi dans le psaume. Je termine. C'est la deuxième fois que je termine. C'est la dernière. Psaume 6.
Et on va te demander l'après-midi de s'avancer pour nous préparer un cantique. Dès que tu veux. Elle va vous discuter ce matin, si tu veux, l'ami. Frères et sœurs, si vous êtes attristés ce matin, si vous êtes découragés, si vous êtes abattus, alors si vous n'avez pas eu le goût de prier, si vous n'avez que le goût de pleurer ce matin, hey, moi j'ai le verset 8. Le verset 8. Ah! Mais qui vient de prier? Qui prie comme ça, c'est la vie. Alors l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Vous savez pas quoi dire? Essayez-vous qu'à travers vos larmes, Dieu en a. Savez-vous que vos larmes sont un langage pour Dieu? Le ciel a bien été pleuré dans sa vie, c'est bien la vie. Ça a bien été exaucé dans sa vie, c'est bien la vie. Vous savez pas quoi dire? Vous êtes découragé parce que vous êtes abattu, parce que ça va pas vous venir dans votre vie. Bien, les mots ne vous viennent pas à la bouche. Tout ce qui vous vient, c'est des larmes. Mais réjouissez-vous ce matin parce que Dieu entend vos larmes. Dieu va répondre. Dieu va répondre. Parce qu'au-delà de vos larmes, Dieu vit dans vos cœurs. Au-delà de ce que vous avez dans vos cœurs, au-delà de vos besoins, Dieu veut répondre à vos besoins. Vous dites Amen?
Amen.
Et vous avez aussi besoin de verser des larmes pour vos enfants pour pouvoir accepter le Seigneur. Et si vous pleurez pour vos enfants, pour pouvoir accepter le Seigneur va entendre vos larmes. Il va répondre à votre prière. Il va l'exaucer. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, comme l'apôtre Paul, Seigneur, pour la foi. La foi que ces chrétiens de Rome avaient pour le témoignage qu'ils nous ont laissé. Seigneur, nous voulons te demander pardon aujourd'hui pour toutes les fois où Christ n'a pas occupé la première place dans nos vies. Nous voulons te demander pardon en même temps. Nous voulons, Seigneur, te dire merci de ne pas nous avoir rejeté à chaque fois que toi tu étais pas présent dans nos vies. Non pas parce que toi tu voulais pas, mais parce que nous, nous avions des choses à faire. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de ne pas nous avoir traité comme nous le méritions. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tous ces moments de prière, Seigneur, que nous avons mis de côté pour nous occuper à nos occupations que nous avons. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que cette église, comme l'église avant un jour, on puisse entendre les gens rendre grâce, Seigneur, pour le témoignage de notre foi. Seigneur, ce matin, que si ce n'est pas le cas que Christ peut occuper la première place en toutes choses dans nos vies, afin que cette paix, cette paix de notre pardonner, cette joie de notre salut, puisse vraiment déborder de nos cœurs. Et comme les chrétiens de Rome, et les païens, ceux qui ne te connaissent pas, puissent être attirés à travers nous, à venir à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Le peuple de Dieu dit
Amen.